Je vous invite à écouter un autre témoignage de quelqu'un qui était invité à la table du roi.
David demanda : Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais lui témoigner ma faveur, par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül, nommé Tziba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda : Es-tu bien, Tziba ? Il répondit : C'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question : Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. Tziba lui répondit : Il existe encore un fils de Jonathan, qui a les deux jambes estropiées. Où vit-il ? Lui demanda le roi. Tziba répondit : Dans la maison de Makir, un fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar, dans la maison de Makir. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela : Mephibosheth, c'est bien moi, pour te servir. Et David lui dit : N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit : Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui ? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Tziba, le domestique de Saül, et lui dit : Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Mephibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Or Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi : Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Mephibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils, nommé Mica. Tous ceux qui demeuraient chez Tziba étaient à son service. Comme il était estropié des deux pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi.
Voilà, nous avons écouté la lecture d'un passage, un de mes textes préférés de l'Ancien Testament. Pourquoi aimer un tel texte? C'est 2 Samuel 9. J'aimerais juste situer un petit peu là où nous sommes arrivés dans l'Ancien Testament. Saül était élu le premier roi en Israël. Et il avait un fils qui s'appelle Jonathan, qui s'est lié d'amitié avec un certain David. David, on se souvient de son combat avec Goliath. Et maintenant, Saül et Jonathan, les deux sont morts le même jour lors d'une bataille à un endroit qui s'appelle Jisréel. David était longtemps rejeté parce que Saül était jaloux de lui. Mais le peuple aimait David et finalement David a été lui qui était exclu et maintenant accueilli comme roi de tout Israël. Il règne sur tout le pays et tout le pays lui est soumis, y compris les pays aux alentours. Et maintenant, David pose la question : est-ce qu'il reste un survivant de la famille de la concurrence de Saül ? Il dit : Je voudrais témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Le serviteur de Saül répond : Oui, il y a quelqu'un, mais il a les deux pieds estropiés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Où vit-il ? Demande le roi. Mais il vit là-bas, l'autre côté du Jourdain, un endroit perdu, Lodébar. Je crois que Ziba a dû se douter des motivations du roi. Parce que c'était monnaie courante, non seulement dans les pays tout aux alentours, mais aussi en Israël. Quand on accède à la royauté, on élimine ceux de la famille précédente. Il ne faut pas regarder dans les pays, les autres pays, ça se passait, vous vous souvenez peut-être, Gédéon, il avait 70 fils, ils ont tous été tués le même jour par celui qui voulait le remplacer. Vous vous souvenez peut-être de Jéhu, c'est celui qui conduisait, avec mes excuses, comme un Italien, son chariot. Lui, il a éliminé toute la famille d'Akab. C'était une pratique courante. Donc, quand Ziba était convoqué à la cour royale, il a dû douter de la motivation de David. Mais pourquoi il me fait venir là à la cour? Et puis, on savait fort bien que c'était pas une petite affaire de se présenter devant une personne qui détenait tout le pouvoir. On se souvient, nous, d'Esther. Esther qui, même mariée, n'osait pas se présenter, sauf que si l'empereur avançait le sceptre en or pour permettre d'arriver dans la présence de son mari. Une idée à retenir, hein? Il y avait Néhémie qui servait le roi avec le vin à sa table. Et il était dans la crainte, dans ses petits souliers, parce que l'empereur a remarqué qu'il avait mauvaise mine ce jour-là. Se présenter devant le roi, pas une petite affaire. Et voilà que le roi convoque cet astropié. Apporte-le, amène-le dans ma présence. Voilà le projet du roi, faire venir Mephibosheth devant lui. Vous avez remarqué le profil de ce Mephibosheth. Mephibosheth, le petit-fils donc de Saül, estropié des deux pieds, habité là-bas, l'autre côté du Jourdain. Il fait le voyage accompagné probablement de Joab, pas connu pour sa tendresse, qui est allé le chercher, et voilà que Mephibosheth arrive à Jérusalem. On peut imaginer qu'il aurait voulu être partout ailleurs que là. Il se présente, ce malheureux estropié, il a de la difficulté à se tenir debout. Il est là sans un atout. Pour cet entretien royal, son CV n'est pas très impressionnant. Sur la photo, il essaie de cacher ses deux pieds. C'était lors de la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, quand c'est arrivé à la cour, que la nourrice de Mephibosheth, il avait 5 ans à l'époque, a pris Mephibosheth, c'est surprenant à 5 ans, mais c'est comme ça que c'est dit, de Samuel 4, elle a pris, et dans sa fuite, elle a laissé tomber. Et ils n'ont pas remis ses jambes en place comme il fallait. Est-ce qu'il est tombé par une fenêtre? On ne sait pas. Mais depuis l'âge de 5 ans, Mephibosheth ne marche plus droit. Il est domicilié à Lodebar. Lodebar, comme j'ai dit, l'autre côté du Jourdain, coin perdu, ça veut dire un lieu sans pâturage. Son affiliation, nous l'avons dit, lignée directe de Saül, petit-fils de Saül, la concurrence. Il se présente et, nous avons lu, il s'incline à face contre terre. Dans d'autres versions, il tombe par terre. Pour un entretien, ça s'annonce pas bien. Et on le prend pour le tenir debout, pour entendre le verdict qu'il craint. Un peu d'histoire. En 1932, à Pittsburgh, aux USA, je ne prononce pas comme il faut, mais tant pis, Franklin Roosevelt s'amène et il plaide, ce serait très à propos aujourd'hui, il plaide qu'il faut diminuer les dépenses du pays. On dépense beaucoup trop. 1932. 4 ans plus tard, est-ce que c'est à cause de maintenant lui, il est en position de pouvoir, il retourne à Pittsburgh et il doit faire passer le message qu'il faut plus de dépenses au niveau du gouvernement. Donc, il demande ses conseillers, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je me souviens d'avoir fait ce discours en 1932. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour faire passer le message? Et la réponse de ses conseillers était très simple. Il faut renier que tu as fait ce discours il y a 4 ans. C'était pas autant de la télé peut-être, mais voilà, c'est véridique. On lui a conseillé de renier la chose, tout simplement. David a fait un discours quelques années auparavant que je vous le lis. Et il a fait du vivant de Jonathan. Jonathan lui dit, plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille. Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille. Petite phrase, mais quelle est la portée d'une alliance, d'un pacte, d'une parole, d'un mot d'engagement? Mephibosheth peut-être ignorait tout de cela. Sa nourrice certainement l'ignorait complètement. David, non. Il aurait pu renier. Il n'y avait même pas de témoin. Mais il utilise le même vocabulaire d'une alliance. Je veux témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Ça revient à 3 reprises. Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Il va encore le dire au verset 7. Ce mot bienveillance, faveur, c'est le mot couramment utilisé dans les alliances que Dieu fait avec nous. Démontrer sa bonté, son amour fidèle, constant, qui ne change pas. David veut refléter cela. Pour un type comme Tiba, ça sent un petit peu douteux, tout cela. Cette convocation, il faut s'en méfier. Et quand il entend au verset 3, je voudrais, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül, je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. Franchement, c'est l'incompréhension. Un pacte conclu il y a 15 ans, 20 ans, quelle importance aujourd'hui. Pour vous qui aimez les films, j'ai lu parce que j'ai pas vu le film Out of Africa. Je sais pas comment ça se dit en français. Out of Africa, voilà. Il y a une scène, paraît-il, dans ce film, parce que Robert Redford et Meryl Streep s'aiment beaucoup. Et puis, elle veut que lui se marie avec elle, et il le dit, et lui, à lui de répondre, mais qu'est-ce qu'un bout de papier peut changer à mon amour pour toi? Bien sûr, il n'a pas compris que l'engagement, l'alliance, n'est pas pour augmenter l'amour, mais pour conduire dans la sécurité. Tiba n'y comprend rien. Il ne comprend rien de ce décret du roi. On va le chercher. Vous n'avez pas le texte devant les yeux, mais je vous invite, quand vous retournez à la maison, de regarder. Parce que l'estropié n'est pas nommé jusqu'à ce qu'il s'approche du roi. Jusque-là, c'est l'estropié, le petit-fils de Saül, fils de Jonathan, etc. Et puis, il arrive dans la cour du roi, et tout d'un coup, il a un nom, Mephibosheth. Et le roi qui s'entretenait avec Tiba est le roi qui parle avec le serviteur. Et quand Mephibosheth arrive, c'est David. Je crois que l'auteur veut montrer que les relations ici proposées sont toutes autres. Et la stupéfaction de Mephibosheth n'est pas encore à son comble. Parce que qu'est-ce qu'il entend? Et là, c'est le cœur du passage. Ça veut dire que c'est vraiment le message central au verset 7. Qu'est-ce que Mephibosheth entend? Première parole, n'aie pas crainte. À celui qui peut s'attendre à rien du tout, David propose la protection royale. Deuxième chose qu'il entend. Je t'assure que je veux te traiter avec faveur. Je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Lui qui a tout perdu, il retrouve tout. Tout lui est restitué, pleinement. Le roi assure sa provision pour toujours. Tous les jours, tu mangeras à ma table. Effectivement, troisième chose qu'il a dit, et vous êtes vraiment très distrait ce matin, si vous n'avez pas compris où Mephibosheth va manger. Parce que quatre fois, c'est dit, tu prendras tous tes repas à ma table. Verset 7, verset 10, quant à Mephibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Verset 11. Mephibosheth mangea à la table royale comme s'il était un des fils du roi. Mephibosheth résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger où? À la table du roi. Vous avez compris. Voilà la portée de l'alliance. Et le bénéficiaire de l'alliance. Une promesse, un engagement à tout changé pour le malheureux Mephibosheth. Il était exilé là-bas à Lodbar. Maintenant, il est installé à Jérusalem. Il était tous les jours dans la crainte. Maintenant, il est en sécurité. Il avait tout perdu. Maintenant, son héritage est pleinement retrouvé. Celui qui avait chuté est relevé. Et les portes du palais royal lui sont grandes ouvertes, comme un des fils du roi. Ce matin, pour terminer, la question est, est-ce que nous avons saisi le projet du roi? On a tous besoin de le réentendre, de réentendre l'invitation du roi. Il n'avait pas d'agenda caché, David, et il n'y a pas d'agenda caché ici. Il veut seulement démontrer la bienveillance de Dieu. Sa volonté, si nous sommes encore en lieu d'exil, c'est de nous prendre dans ce lieu de paix. Si nous nous cachons encore quelque part derrière quelque chose, il nous invite dans sa présence. Je ne mérite pas. C'est pour des personnages sensibles, c'est très courant. Et c'est précieux d'entendre le témoignage du courage de le dire. Mais je ne mérite pas. Si vous vous êtes reconnu dans le CV de Mephibosheth, vous avez rempli toutes les conditions. Le roi vous invite à sa table comme un de ses fils, une de ses filles. Est-ce que ce matin nous avons compris la portée d'une alliance? Dieu manifeste son hesed, sa faveur, son amour fidèle, constant. Il le manifeste en notre faveur. Grâce non pas à Jonathan, mais bien sûr à Jésus, fils de David. Une alliance ultérieure, supérieure, permanente, définitive. Dieu lui-même nous appelle par notre nom. Il s'intéresse à nous. Pourquoi il s'intéresse à moi? Tu t'intéresses à moi, a demandé Mephibosheth. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Et lui-même, il a satisfait les conditions de son alliance. Mephibosheth a dû faire du chemin, non seulement de Lodbar à Jérusalem, mais dans sa tête, de se rendre compte que tous les jours, il était bienvenu à la table du roi. Qu'il était maintenant comme un de ses fils, un des fils du roi. Est-ce qu'un jour ça a abouti à son émerveillement, reconnaissance, de quoi jubiler? Il a maintenant tout. Tout m'est redonné. Nous avons reçu l'invitation. Les conditions ne sont pas difficiles à remplir. Faisons le déplacement, car tout est prêt. Le roi nous appelle à sa table.